7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de l'échec scolaire. L'école est devenue centrale pour réussir dans la vie. Et c'est à partir de ce constat que de plus en plus de familles s'angoissent quand leurs enfants ont des résultats scolaires décevants, voire catastrophiques. Ou une peur, ou une anxiété aussi qui se manifeste dès qu'il est question d'apprentissage scolaire ou d'école. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychologue belge, mais chez vous en Belgique, on dit psychopédagogue, chercheur en pédagogie familiale et scolaire, et vous publiez « Aider son enfant à bien vivre à l'école ». On voit bien comment vous avez évidemment, vous nous proposez un titre positif sur des problèmes qui minent souvent les familles. Pour vous, en tout cas, il existe de vraies solutions pour éviter un gaspillage, une souffrance scolaire, et vous allez nous parler de ces solutions. Nathalie David-Veil, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez comme une ancienne cancre.
Oui.
C'est plus tellement un mot qu'on utilise, d'ailleurs. On n'oserait plus, non?
On n'oserait plus. D'où le titre de mon livre, Bon à rien, on ne le dit plus beaucoup non plus.
C'est ça, c'est un roman, mais inspiré en partie de votre expérience.
De plusieurs expériences, la mienne, celle de mes élèves, mes enfants qui ont été très bons à l'école, mais néanmoins pas tous les ans, pas toujours, pas comme on veut.
Donc on comprend que vous en êtes sorti,
oui.
Vous êtes diplômé en littérature française et vous enseignez le français à des adolescents en décrochage scolaire à Bruxelles également, et vous animez un atelier d'écriture. Alors quant à vous les voisins et les voisines, appelez-nous dès maintenant si vous vous sentez concerné par le sujet, si votre enfant a du mal à comprendre, à mémoriser, si vous ne savez pas quoi faire, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp qui est gratuit, sur lequel vous pouvez laisser des messages écrits que je peux lire, bien évidemment, mais le mieux, ne laissez plus de messages audio parce qu'on est en direct, appelez-nous tout simplement, vous avez la parole en toute liberté, en tout anonymat. Voilà, 33 1 84 22 71 71. Bruno Humbeck, Nathalie Veil, le droit à l'éducation, donc à l'école, c'est devenu aujourd'hui, Dieu merci d'ailleurs, un droit fondamental partout dans le monde, même si il n'est pas respecté partout, hélas. Mais est-ce que finalement le revers de la médaille, le revers de cet immense progrès, ça n'est pas une véritable pression scolaire, Bruno Humbeck?
Alors, le vrai problème, c'est que le droit à l'éducation devienne un devoir de réussite. Ça, c'est catastrophique dans des contextes qui sont des contextes, non pas même de parentalité, je vais dire, mais d'hyper-parentalité. C'est-à-dire des parents qui mettent au monde des enfants en ayant pas toujours comme un accident ou comme un heureux événement, mais en ayant programmé cette mise au monde. Ça veut dire qu'on se sent très responsable de ce qui va leur arriver, on se sent très très responsable, y compris de leur parcours scolaire. Et en cas d'échec scolaire, bah, y a un petit tremblement qui se manifeste chez le parent, qui peut aller jusqu'à une angoisse profonde en disant qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein, ce que
oui,
vous appelez un bon à rien. C'est souvent quelqu'un qui est considéré comme un mauvais en tout. Or, c'est très très compliqué pour un enfant de percevoir notamment qu'il angoisse ses parents ou, bah, dans les fratries par exemple, qu'il réussit moins bien que les autres, qu'il risque donc de ne pas être le préféré. Et ça, c'est très difficile à vivre pour un enfant. C'est pour ça que la réussite scolaire met de l'angoisse chez tout le monde, généralement.
Donc, on accorde trop d'importance à l'école ou on n'accorde pas l'importance, la bonne importance qu'on devrait à l'école? L'enfant est devenu un élève?
Oui, c'est pourquoi j'ai écrit le livre. C'est pour essayer de dire une note est une note, il faut la remettre à sa place. Et ça, dans une famille où tout va bien, tout d'un coup, une mauvaise note, comme vous disiez, prend une proportion immense et peut détruire l'équilibre familial, vraiment. Les parents se sentent tellement coupables que ça, l'angoisse fait que ça désorganise tout.
Qu'est-ce que vous observez l'un et l'autre au fil des années dans votre dialogue avec les enfants, avec les adolescents, avec les familles aussi?
Une focalisation extrême mise sur l'école. Si vous demandez à un parent comment va son enfant, il va vous dire il a 80%. Je n'ai pas demandé résultats scolaires, j'ai demandé comment il allait.
Il ne va pas vous dire qu'il adore jouer au foot.
Voilà. Effectivement. Donc les deux ascenseurs sociaux d'ailleurs. Il y a deux espaces.
En même temps, il passe plus de la moitié de la journée en classe.
Alors ce n'est pas une question de quantité.
On se
de
définit
temps.
Nous aussi par rapport à notre travail d'une certaine manière.
Personne n'a accouché d'un élève. On accouche d'un enfant qui devient un élève par la magie de l'école.
Et on va personne constater... n'a accouché d'un élève, ça on va le retenir ça.
C'est une bonne formule.
Et le principe c'est que l'école, comme les terrains de football, ce sont les deux endroits où vous allez voir des parents devenir fous. Le long des terrains de football et dans des devoirs scolaires, par exemple. Des parents qui font une contre-pédagogie absolue parce qu'ils s'énervent sur leur enfant. Ce sont d'ailleurs généralement les moins bien placés pour accompagner les devoirs scolaires de leur enfant parce qu'ils mettent trop de pression sur l'acte éducatif. Ce sont les ascenseurs sociaux et ils sont surinvestis actuellement parce que nous sommes dans des sociétés de déclassement. Il faut savoir que dans un pays comme la Belgique ou la France, nos enfants ont 8 chances sur 10 d'avoir un poste inférieur au nôtre. Parce que effectivement, il faut, s'ils veulent d'ailleurs le même poste, ils vont faire 5 années d'études en plus. Ça veut dire qu'il y a une pression à la réussite scolaire qui serait associée aux parents à une pression à la réussite sociale. Mmh. Il faut qu'ils réussissent à l'école pour pouvoir réussir socialement.
Belgique, France, mêmes obsessions, mêmes anxiétés. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie, David Veil?
Oui, je pense que c'est à peu près pareil. Partout. C'est-à-dire que l'enfant qui, ou l'adolescent vit le décrochage scolaire mal et rapidement il décroche, c'est-à-dire qu'il abandonne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Donc c'est ça le tragique, c'est de remettre, enfin c'est le cas ouais. de cette école où je travaille, c'est réellement remettre dans une direction et reprendre confiance en soi, je crois
des
que
jeunes
c'est un
qui ont décroché hein, scolairement, c'est-à-dire que vous récupérez des jeunes qui ont accumulé une vraie rancœur ou une peur de l'apprentissage.
Les deux. Il y a tous les cas de figure hein, donc ouais. Qu'on met ensemble et ça fonctionne plus ou moins et plutôt plus que moins, donc c'est pas mal.
Mais vous, comment vous avez vécu les difficultés scolaires? Quel élève vous avez été? Parce que vous avez été une lectrice de Daniel Pénac qui a publié cet immense succès de librairie Chagrin d'école, ancien
d'école.
Quand
je devenu
écrivain,
je me suis dit, il a tellement de courage d'étaler au grand jour qu'il a été quand, comme si c'était encore une
honte. Vous
n'auriez
pas pu, vous, c'est pour ça que vous avez
ça
complètement romancé.
Ça m'a complètement débloqué, oui, je l'ai romancé. Mais, c'est...
On peut parler d'une culpabilité du mauvais élève?
Oui, parce que comme vous disiez, effectivement, on se rend compte qu'on est une déception pour ses parents, pour ses professeurs. Tout de même, on a envie de faire plaisir et on ne comprend pas pourquoi on est différent quand on n'y arrive pas, hein. Pas quand on a décidé. Après, on décide de ne pas travailler parce que c'est plus facile. On se met dans un rôle de mauvais élève.
Alors, on parlait de Daniel Pénac, donc ancien cancre devenu écrivain à grand succès. Le mythe du gamin talentueux qui se révèle en dehors de l'école. On a l'impression qu'il n'y a plus de place pour ces rêves-là dans nos sociétés, d'ailleurs.
Pourtant, la mère dans mon livre, bon à rien, Charlotte, est tellement angoissée par son fils qui n'est pas bon à l'école qu'elle va faire des recherches sur les cancres qui réussissent justement. Mmh. Et il y a une galerie de portraits énorme et je pense que ça existe toujours. C'est-à-dire que c'est jusqu'à, il y a tout de même une raison et jusqu'à, ils vont se réveiller et se révéler. L'exemple de Darwin est absolument fantastique, par exemple, où son père le prenait pour un débile qui ne faisait que regarder la nature, oui. qui était très étourdi et voilà.
Ouais. Mais enfin, vous ne nous avez toujours pas dit quel cancre vous avez été vous-même.
Ah, j'étais très distraite. J'étais un petit peu le petit Félix de mon livre.
Oui.
J'étais un petit peu distraite et ça ne m'intéressait pas du tout.
Rêveuse.
C'était un peu une révolte, je crois. Je les emmerde tous.
Une révolte pacifique. Hein.
Oui, pacifique. C'est très efficace.
Le radiateur. Et on rêve en regardant par la fenêtre.
Alors, pour un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut savoir que l'école est passée à côté de tous les génies de l'humanité. Ce n'est pas le rôle de l'école, d'ailleurs, de repérer les génies. Si vous prenez, vous avez parlé de Darwin. Darwin avait une intelligence naturelle hors norme. Mais son intelligence conceptuelle et son intelligence mathématique étaient très pauvres. Et c'était juste une intelligence différente. Einstein n'avait pas non plus une intelligence mathématique particulière, mais une intelligence créatrice, hors norme. Il a dit d'ailleurs cette phrase merveilleuse, « J'ai commencé mes études quand j'ai arrêté l'école. » Et si vous prenez quelqu'un comme Mozart, c'était un élève catastrophique, mais avec une intelligence musicale hors norme. Donc ce qu'il faut se poser comme question par rapport à son enfant, c'est pas « Est-il intelligent ?» mais « Quel type d'intelligence est-ce qu'il a développé ?» Et ce qui est encore plus important, c'est de définir la réussite scolaire. Pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui est un cran comme Daniel Pénac ne l'est pas non plus. Il l'a été, vous n'avez pas été abîmé par l'école au point de perdre tout désir et tout plaisir d'apprendre. Un enfant qui rate à l'école, c'est un enfant qui perd son plaisir d'apprendre. Qu'on n'apprenne pas, et j'ai régulièrement en consultation des parents d'adolescents qui viennent et qui me disent « mais ils ne s'intéressent pas à l'école », mais je dis « mais c'est tout à fait normal, l'école n'est pas là pour ça pour le moment », et qui se contentent de résultats qui lui permettent de réussir tout juste, mais qui préservent ses centres d'intérêt de façon à choisir, notamment dans ses études supérieures, les cours qui l'intéresseront vraiment. Les pédagogies de l'intérêt le montrent. Vous parliez de déficit de l'attention en disant, vous finissez par résister en ne faisant attention à rien. On ne fait attention qu'à ce qui nous intéresse.
Exactement.
Et donc le principe, c'est qu'il faut d'abord intéresser l'élève et donc l'enfant à un ensemble d'éléments.
Donc en gros, vous dites, allez, sois médiocre pour qu'on te fiche la paix.
Alors, bon, je ne vais pas parler de médiocrité, moi.
Je raccourcis, juste à niveau.
Échoue, continue à échouer, mais échoue mieux, par exemple. Je préfère ça. C'est-à-dire, cherche et pose des questions. La véritable posture d'un parent efficace, c'est pas de demander à son enfant quand il revient « Est-ce que tu as bien travaillé ?» mais « Quelle belle question as-tu posée aujourd'hui ?» C'est ça le principe,
alors,
c'est questionner.
Il y a beaucoup de phrases qu'il faut éviter quand on est parent, de bonnes questions à poser qu'on ignore. Et évidemment, vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour dialoguer avec nos invités, Bruno Humbeck et Nathalie David-Veil. On parle des difficultés d'apprentissage et de l'échec scolaire. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone. Également le WhatsApp. On accueille un auditeur qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Chaïb.
Bonjour.
Chaïb.
Bonjour, ça va ?
Oui, soyez le bienvenu Chaïb. Oh, j'entends la famille derrière. Ce sont les petits derniers,
c'est ça ? Les tout derniers, voilà.
Donc, 5 enfants, dont 4 au lycée. Ça veut dire 4 problèmes ou pas, Chaïb ?
Pas 4 au lycée. Non, 2 en primaire et 2 au lycée.
Ah, d'accord. Bon.
Voilà.
C'est pour nous parler de l'un de vos enfants que vous nous appelez, je crois.
Voilà. Ma préoccupation est, bien entendu, celle d'un père de famille, soucieux du devenir de ses enfants.
Oui.
En effet, je suis père de 5 enfants, dont 4 qui fréquentent, 2 en cycle primaire et 2 au lycée. Bon, mon inquiétude se porte sur l'aîné qui est présentement en première jeudi. C'est un enfant très intelligent qui, au départ, il scolarise pas reproché.
Première G2, donc première en section technologique, c'est quoi exactement G2 ?
G2, c'est la comptabilité, la technique quantitative de gestion.
D'accord.
Oui, voilà. Donc, au départ, il a eu une scolarité sans reproche jusqu'à son bac. Donc, il a obtenu son BEF, il a fait la seconde.
Son brevet, oui.
Puis, son brevet, il l'a obtenu avec brio. Et puis, après, il a fait la seconde et il a passé en première. Mais maintenant, il passe pour la première L. Alors qu'il me disait que, papa, moi, je voulais devenir un informaticien comme toi.
Oui.
Et moi, je lui ai dit, si tu veux devenir informaticien, tu dois vraiment aimer les sciences. C'est-à-dire faire... les maths et les sciences physiques. Comme
donc
ça,
la première S, c'est ça. Or, il n'est pas allé en première S. Pourquoi il n'est pas allé en première S ?
Donc, de ce fait, je lui ai fait reprendre la seconde U pour qu'il soit outillé en mathématiques afin de faire la première S.
Ouais.
Il a repris la seconde, mais à la fin de l'année, il me dit que non, il veut aller en première G2. Donc, je lui ai posé la question, pourquoi je dis non, qu'il a changé d'option. Je dis d'accord. Et là, je l'ai laissé faire la première jeudi. Présentement, il est en première jeudi. Mais mon inquiétude, c'est que il est tout le temps, il adore le kit. Tout ce qui est technologie, il les racole, les jeux vidéo, son rêve, c'est de faire de la robotique et autres.
Ouais, il n'est pas le seul hein, à cet âge-là, je vous rassure, hein, Chaïb.
Vous dites ?
Il n'est pas le seul hein, à aimer les jeux vidéo, la technologie, l'Internet, etc. Hein, on va se rassurer tout de suite.
Mais en pratique, à l'école, il n'est pas aussi brillant en mathématiques. Voilà.
Donc, en gros, Chaïb, il vous a déçu en n'allant pas en première scientifique et en allant en première section comptabilité, gestion technologique. Hein.
Non, mais il ne m'a pas déçu, mais... j'ai un peu de doute sur lui parce que, étant donné que je me suis dit, bon, s'il n'a pas réussi là-bas, est-ce qu'il va réussir en première G2 ? C'est là où la question que je me pose. Parce que les autres m'ont montré leur bulletin.
Bruno Humbeck veut vous parler. Bruno est dans le studio.
Alors, je pense que c'est essentiellement un problème qui n'est pas un problème de scolarité dans ce cas-ci, mais un problème d'orientation. Et le principe, c'est effectivement, j'entends quelqu'un qui a toujours des centres d'intérêt, qui continue à avoir envie d'apprendre. Évidemment, il met cet investissement dans les domaines qui l'intéressent. Et vous avez d'ailleurs posé une partie, en posant votre question, est-ce qu'il vous a déçu ? La déception, c'est un état d'âme sur la tristesse. Donc j'entends effectivement que le papa n'est pas triste, donc déçu, mais qu'il est plus inquiet, il a peur. Et cette peur, elle se manifeste non seulement par rapport à ce que l'enfant vit à l'école, mais ce qu'il va devenir. La fameuse phrase de Penac dont on a parlé tout à l'heure, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Le gros problème, il est là, c'est cette pression que les enfants ont sur leurs épaules, les adolescents, « Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ?» Avec l'impression, et on a vu d'ailleurs le fait de s'intéresser aux jeux vidéo, il faut savoir que les métiers vont changer très très fort dans les années qui viennent, et qu'il y a des tas de métiers nouveaux qui vont émerger. Ce qu'on a constaté, c'est que dans les tâtonnements de l'adolescent, eh bien, il y a une recherche d'investissement dans ces nouveaux métiers, qui sont effectivement les jeux vidéo, les conceptions de jeux vidéo, les communications nouvelles.
Directement par la pratique, on va dire, vraiment passer par la théorie à l'école.
Mais c'est un apprentissage aussi qui est survalorisé dans les pédagogies.
Ce qu'on comprend, c'est que Chaïb aurait préféré que son fils passe directement par un apprentissage solide, scientifique, mathématique.
Il aurait été rassuré. Le problème, il est dans la peur et dans l'inquiétude. Donc, ce n'est pas le fait de préférer, c'est d'être plus rassuré. Et parfois, on a tendance à d'abord accélérer les apprentissages, faire en sorte que apprendre, c'est une chose, mais apprendre vite. Et là, on a beaucoup à apprendre, nous, dans les sociétés occidentales, ce qui se passe en Afrique.
Est-ce qu'il faut que Chaïb dise à son fils son inquiétude ?
Alors, bien sûr, sa peur, en tout cas. Son inquiétude, c'est déjà quelque chose qui est, cérébralisé. C'est-à-dire que c'est le cortex qui intervient. Mais l'émotion, de toute façon, son fils s'en rend compte.
Donc, Chaïb, est-ce que votre fils, est-ce qu'il le sait, ça ? Vous lui avez dit, je suis un papa qui a peur pour toi ?
Oui, il le sait parce que tout le temps, il me voit, je passe devant sa chambre, je jette un coup d'œil, je dis, mais est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu apprends, est-ce que aujourd'hui, bon, il sait que je m'inquiète pour lui. Là, il le sait pertinemment.
Alors, c'est tout le problème. J'ai bien entendu expliquer ce qu'est ce qu'on appelle un parent hélicoptère. Je tourne autour de sa chambre. Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Il ne faut pas oublier que son fils est en train de poursuivre ses propres études, pas les études de son père. Et trop souvent, on a une confusion entre les deux. Je veux que tu réussisses tes études comme si c'était mes études. Et donc, il est en train, effectivement, et on peut comprendre, dans tout parcours scolaire, il y a du tâtonnement, il y a des hésitations, il y a des troubles. C'est pour ça qu'on parle de troubles de l'apprentissage. Moi, je préfère parler d'apprentissage trouble, parce que quand on parle de troubles de l'apprentissage, on en fait vite toute une maladie. Hein. Et puis, une fois que la maladie est diagnostiquée, on fige la personne dans un diagnostic. Les apprentissages, c'est toujours trouble. Le parcours de cet adolescent est un parcours normal, avec des hésitations. C'est pas un long fleuve tranquille. Aucun apprentissage ne crée un confort permanent, continu et constant.
Et c'est la complication de faire confiance, son enfant, qui n'a pas envie d'échouer non plus.
Exactement.
Et donc, il le sait qu'il doit travailler. Tout le monde lui répète, le professeur, ses parents. Il a son rythme aussi.
Bien sûr.
Et il a envie de le garder, son rythme. Et tout le problème est là, je crois. C'est cette pression, à la fois à l'école et dans la famille.
Mais l'étonnement gagne les pays africains aussi. Parce que moi, je voyage beaucoup en pédagogie. Et il y a une force dans les pays africains qu'on avait perdue dans nos pays occidentaux. C'est l'idée qu'un apprentissage peut prendre du temps. Que répondre à une question, ce n'est pas une question de vitesse. En Belgique ou en France, quand vous posez une question à un enfant, vous attendez qu'il réponde vite. En Afrique, j'ai eu l'expérience au Bénin récemment. Je pose une question à un enfant dans une classe. Et il me dit « Attends, je vais te donner la réponse. » Et je dis « J'attends quoi ?»« Bah, t'attends que je trouve la réponse. » Et il a raison, c'est cette démarche de recherche de savoir qui est beaucoup plus productive qu'un enfant belge ou français qui va se mettre à paniquer parce qu'il ne sait pas donner la réponse immédiatement. Mmh. Ça, ce sont des éléments qu'il faut absolument conserver dans des cultures différentes des nôtres. C'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre de pédagogie qui ont été dans le mur. Nos pédagogies belges ou françaises mettent trop de pression sur la réussite éducative et pas sur le cheminement qui est celui de la recherche des réponses.
Chaïb, est-ce que vous avez une dernière question à poser à nos invités à propos de votre fils ?
Bon, juste une dernière question.
Oui.
Pour l'imminent intervenant qui vient de m'expliquer toute la situation. Et quelle solution pourrais-je adopter afin de dissiper cette inquiétude ou bien cette peur ?
Alors, je pense que la réponse a été donnée, c'est avoir confiance non seulement en son envie de réussir, mais en son envie d'apprendre, et avoir confiance aussi, parce que la confiance dans, de nos jours, c'est pas seulement celle qu'on a vis-à-vis de son enfant, mais vis-à-vis de la société en général. Il va faire un parcours dans lequel, s'il n'abîme pas son plaisir et son désir d'apprendre, qui lui permettra de trouver une place dans la société qui correspond à ses aspirations. Et donc, c'est diminuer la pression et la tension. Je vais dire, ranger un petit peu l'hélicoptère si on est un parent hélicoptère.
Oui, tant qu'il n'y a pas de drame dans les notes, voilà. Apparemment, pour le moment, Shaïb, même si peut-être qu'il n'a pas les notes aussi brillantes que celles que vous attendiez, qui ont été celles du brevet, il n'y a pas de drame pour le moment, question de notes, hein, en G2, non, pour votre fils.
Non, il n'y a pas de drame pour le moment. Ça va,
voilà.
Ça va quand même.
Bon, bah alors non. Donc, voilà, il a redoublé parce que finalement, c'est vous qui l'avez fait redoubler, hein, pour qu'il aille dans la bonne section. Ce n'était pas tout à fait son choix. Bon, bah maintenant, il va se remettre en selle, hein, et puis on laisse un peu le temps au temps et son évolution. Vous avez bien entendu le conseil de Bruno Humbeck, ne pas abîmer sa relation à l'école et son plaisir d'apprendre aussi, qui forcément est intact, ne serait-ce que dans, peut-être qu'il joue à des jeux de vidéo de stratégie, qu'il travaille son intelligence, et que ça aura des répercussions ensuite. Merci Shaïb de nous avoir appelé.
On vous souhaite
une très très bonne journée, en tout cas Anne Jamena, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. On prendra une auditrice qui nous appelle de région parisienne, mais ça sera juste après Bombay Bicycle Club. Shuffle, Bombay Bicycle Club, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux difficultés d'apprentissage et à l'échec scolaire avec nos invités. Bruno Humbeck, psychopédagogue belge. Vous publiez « Bien vivre à l'école ». Aider son enfant, surtout à bien vivre à l'école. Et Nathalie David-Veil, vous aidez des adolescents en décrochage scolaire. Aujourd'hui, vous êtes une ancienne cancre ou bonne à rien, comme on dit. C'est le titre de votre roman, largement inspiré d'une partie de votre expérience. Bon à rien, publié chez Robert Laffont. Des auditeurs nous appellent pour vous questionner, bien évidemment, pour mieux comprendre la situation, mais aussi pour savoir quoi faire. Jocelyne, qui est à Curpite, au centre de l'île Maurice, nous dit ceci. Si mon fils de 16 ans est capable de faire mieux, mais il ne veut pas. Oui. Petit, il était bon élève. Depuis le collège, c'est pas facile. Je lui demande s'il a un problème avec nous ou avec ses parents, il ne dit rien. Il n'aime pas que je regarde ses devoirs. Sans son portable, il ne fait pas ses devoirs. Il fait juste le nécessaire pour ne pas redoubler. Comment faire en sorte qu'il fasse mieux ?
Alors, j'ai juste changé un mot dans ce que vous venez de dire. Comment
enfin,
faire
moi,
en sorte...
moi, j'ai lu le message
oui,
de Jocelyne.
Bien sûr. Hein. Eh bien, j'ai changé un seul petit mot, mais qui était important. Comment faire en sorte qu'il fasse mieux? Pourquoi faire en sorte qu'il fasse mieux? Il est en train juste de faire ce qui est une manière de réagir tout à fait positive, le strict minimum pour ne pas descendre et rater une année. Bah, il est capable d'améliorer ce qu'on appelle sa capacité. C'est-à-dire qu'au bout, il ne va pas tomber, il va continuer à avancer, il ne va pas s'abîmer dans l'école en essayant d'avoir des résultats. Alors, il est évidemment capable du multitâche, comme la plupart des adolescents actuellement, son vidéo, son appareil, l'école aussi, mais à sa juste place. Donc, c'est quelqu'un qui continue à s'intéresser. Il faut bien que les parents comprennent très, très concrètement qu'il y a l'intérêt qui est normalement à géométrie variable, c'est-à-dire qu'un enfant s'intéresse moins aux matières scolaires, c'est plutôt même un indice de bonne santé quand il est adolescent.
Il peut s'y remettre après.
Vous en êtes un exemple vivant.
Exactement.
Et vous n'avez pas abîmé votre rapport au français puisque vous avez aimé la littérature.
Non, c'est l'inverse. Je lisais beaucoup et d'un coup, ça a été utile.
C'est pour ça que vous ne faisiez rien à l'école, c'est ça. Vous lisiez que des romans.
Exactement.
J'ai dans mon bureau trois photos que je montre très souvent aux parents. Une première photo où il y a les points d'un groupe d'enfants d'une classe en primaire. Une deuxième photo avec ces enfants devenus adolescents en secondaire. Il y a une corrélation absolue. En gros, si votre enfant est un mauvais élève en primaire, ça ne va pas s'arranger en secondaire. L'adolescence, c'est comme la levure, hein, ça gonfle tout. Donc, vous aurez sans doute des résultats décevants. Puis, il y a une troisième photo qui montre la réussite socioprofessionnelle ultérieure de ces enfants. Il n'y a aucune corrélation. En gros, des très bons élèves se sont complètement vautrés, et d'autres qui étaient des élèves catastrophiques ont réussi des carrières brillantes. Par contre, il y a une quatrième photo que je sors alors après, les lecteurs spontanés, ceux qui lisent spontanément des livres ou qui jouent à des jeux qu'ils transforment en jeux éducatifs. Là, il y a une corrélation absolue. Si votre enfant aime spontanément lire, vous devez être beaucoup moins inquiet que s'il a de bons résultats scolaires. C'est le meilleur prédicteur, c'est-à-dire des enfants qui apprennent, qui ont du plaisir d'apprendre. C'est pour ça que il faut diminuer la pression. Quand j'entends une maman qui tourne autour de son enfant, qui regarde, je me dis on est en train de mettre beaucoup de pression sur quelque chose qui ne va pas si mal que ça.
Jocelyne nous dit sans son portable, il ne fait pas ses devoirs. Mais logique aussi, on a aujourd'hui besoin de son portable pour faire ses devoirs, ne serait-ce que pour aller sur Wikipédia en permanence, ou pour aller regarder une vidéo connexe au sujet qu'on doit traiter, etc. Et qu'on n'a pas forcément envie de rester uniquement dans les bouquins scolaires.
Je rajouterais aussi, il fait sans doute ses devoirs jusqu'où ça est nécessaire. C'est-à-dire, il fait en sorte de ne pas avoir d'ennui à l'école, en réussissant tout juste, ce qui sont des attitudes qui sont tout à fait positives chez un adolescent. Par contre, je comprends un parent qui s'inquiète parce que son enfant ne retient pas ou ne comprend pas. Et on doit leur donner d'autres conseils.
Mais alors là, vous lui dites quoi, Jocelyne? Il est urgent d'attendre et de ne rien faire?
Alors, laissez votre enfant tranquille. J'irai jusque-là. Ne vous inquiétez pas, ne faites pas passer votre anxiété à travers la relation que vous avez avec lui, qui risque à ce moment-là de se tendre, de créer beaucoup de tension, là où cette tension n'est pas nécessaire. La tension peut être beaucoup plus nécessaire, mais ça, c'est pas le cas de Jocelyne.
On est d'accord, c'est ça, que vous ne diriez pas la même chose à un parent dont l'enfant a des notes absolument catastrophiques, dont les enseignants sont alarmés, etc. On n'est pas sur ce cas de figure.
Et on n'est pas non plus chez un enfant qui aurait envie de réussir, mais qui ne comprend pas ou qui ne retient pas. Là, ça, c'est d'autres conseils qu'on
doit donner. On va en parler. Hein. Il ne comprend pas, il ne retient pas, parce que là, ce sont des vrais blocages et qui peuvent créer une véritable souffrance pour l'enfant, pour l'élève, pour les parents également. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Amina qui nous appelle de Paris. Bonjour Amina.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à vos invités.
Bonjour.
Pour aller vite, je suis donc, je suis responsable d'antenne jeune pour l'éducation socio-professionnelle des jeunes.
Oui.
Et en même temps, dans le cadre professionnel, j'ai eu le cas d'un petit garçon effectivement qui était bloqué par l'apprentissage et qui l'a transformé en violence au collège. Et j'ai été interpellée par la direction du collège concernant son cas. Et c'était tout simplement qu'on imposait à ce garçon-là un apprentissage qu'il ne voulait pas faire. Et je l'ai pris en charge dans mon antenne. Et franchement, les résultats furent extraordinaires. Le deuxième cas que j'ai, c'est le cas de ma propre fille.
Alors, c'est-à-dire, les résultats furent extraordinaires. Vous l'avez réconcilié avec l'apprentissage? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui?
Je l'ai réconcilié avec l'apprentissage, avec lui-même, avec le collège, avec ses camarades.
Et comment?
C'est tout un travail. À l'écoutant, tout simplement. Parce que le problème, je suis entièrement d'accord avec votre invité, on impose trop de choses à ces jeunes-là. Ils sont martyrisés par l'hantise des parents. Les parents veulent que les enfants aient des résultats qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu ou qu'ils ont eu. Mais ce n'est pas les parents, c'est les enfants. C'est la vie et l'apprentissage de l'enfant. Ce n'est pas la vie et l'apprentissage des parents.
Trop de pression scolaire, donc.
Trop de pression scolaire et familiale.
Il y a aussi l'inquiétude des parents de mal faire. C'est-à-dire que si votre enfant est, disons, mauvais en maths, ce qui est assez classique, hein, avec un blocage que vous devez connaître, parce que souvent, s'il y a des blocages, ça se colle sur les maths, d'après ce que j'ai compris. Vous voulez aider, vous voulez faire bien, vous voulez ne pas vous désintéresser non plus.
Tout à fait. C'est vraiment le creuset des difficultés scolaires est très souvent là, dans la revendication de l'excellence avec des parents qui entendent, fait un effort, soit parfait, soit forte. C'est-à-dire...
Ça, c'est toutes les phrases qu'il ne faut pas dire, c'est ça?
C'est toutes les phrases qu'il ne faut pas se dire à soi-même et dire aux autres. C'est-à-dire, par exemple, les parents, quand ils font les devoirs avec leurs enfants, quand ils s'énervent, ce qu'on appelle, nous, enfants traumatisés.
C'est généralement, la phrase qui tue à la fin, c'est « mais enfin, tu ne comprends rien ou quoi ?»
Ah oui, alors ça, évidemment...
Qui ne l'a pas prononcé?
Alors, il faut bien comprendre que la compréhension, c'est pas quelque chose qu'on sait imposer au burin. Vous ne saurez jamais faire rentrer les opérations logiques au burin dans la tête de votre enfant. Et quand je fais dans des conférences, je demande qui est fort en maths et qui est mauvais en maths. J'ai toujours des forts en maths et des mauvais en maths. Hein.
Oui.
Et on dit, si on ouvre vos cerveaux, on ne va pas voir de différence. Simplement, vous avez sans doute, à un moment donné, et généralement dans les devoirs, c'est là que ça se manifeste avec le plus d'acuité, vous avez été confronté à quelqu'un qui ne comprend pas que vous ne compreniez pas. L'acte d'incompréhension, il est très dur à comprendre, y compris pour les enseignants, et c'est ce qu'on appelle l'effet Bachelard. Plus vous êtes très très fort dans un domaine, moins vous comprenez que les autres ne comprennent pas. En gros, si vous êtes très fort en maths, n'enseignez pas les maths. À votre enfant, en tout cas, parce que vous n'allez pas comprendre qu'il ne comprend pas. Résultat, vous allez vous énerver, vous allez donc le stresser. Un enfant stressé, c'est le problème du cerveau. C'est que si vous êtes tendu, c'est la partie du cerveau dont vous avez besoin pour réaliser des opérations mathématiques, il est parasité par l'anxiété, donc vous ne saurez pas le faire. Un enfant tendu ne sait pas répondre aux questions qu'on lui pose. Le parent s'énerve et c'est un cercle vicieux qui s'installe, qui fait qu'on finit par ne plus faire de mathématiques parce qu'on se dit, mais ça transforme les gens qu'on aime en monstres qui se mettent à hurler. Et donc l'enfant arrête de faire des maths et le problème du cerveau, c'est que c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas va finir par se perdre. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent, parce que vous n'avez pas myélinisé votre circuit cérébral. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont bons en maths le savent, leurs circuits cérébraux sont myélinisés, ils vont très très vite. Et les mathématiciens le savent, plus c'est dur, plus c'est bon, parce que ça crée des espèces d'endorphines. Et donc vous avez l'effet que Archimède a démultiplié, qui est une bouffée de bonheur, une bouffée de plaisir, qui est très très proche de l'orgasme d'ailleurs, qui est celui qu'on éprouve quand on réussit une opération mathématique difficile. Et vous avez ceux qui vont alimenter leur plaisir d'apprendre, les bons en maths, et les mauvais en maths qui eux vont décider très tôt que comme faire des maths ça énerve tout le monde, il vaut mieux pas en faire, et donc vont s'orienter très très vite en décidant d'être un cancre, et souvent ils se retrouvent dans la littérature après, parce qu'ils ont décidé que les mathématiques en tout cas c'était pas leur truc. Et c'est pour ça que les parents sont...
On peut en arriver à parler de sexe en parlant d'apprentissage et d'échec scolaire. Ça alors j'aurais pas imaginé. Et Amina, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, je suis toujours en ligne avec vous et je suis entièrement d'accord. Le problème c'est que tout le monde n'est pas matheux. Il faut qu'on l'accepte. L'enfant qui a de mauvaises notes en mathématiques peut avoir des bonnes notes en français. Oui. Il faut discuter avec l'enfant, lui demander ce qui l'intéresse. Forcément, on avance dans ce qui nous intéresse.
Vous avez l'impression que les parents aujourd'hui, à cause de cette anxiété, de cette inquiétude, de cette peur aussi du déclassement, que l'enfant ait encore plus de difficultés qu'eux-mêmes dans la vie, que les parents ne sont pas capables de dialoguer calmement avec leurs enfants?
Les parents ne sont que les produits de notre société. Et notre société nous fait accepter ce qu'elle veut qu'on accepte. C'est ça la réalité, parce que je crois qu'il faut un vrai débat par rapport à ça. Et ça va éviter pas mal d'échecs et de violences.
Merci en tout cas Amina de nous avoir téléphoné. Merci pour ce témoignage et bien évidemment vous pouvez continuer de nous appeler, de nous parler aussi du cas de vos propres enfants au 33 1 84 22 71 71. Bruno Humbeck, vous dites beaucoup d'ailleurs Nathalie David-Veil, vous le faites aussi avec les adolescents. Il faut commencer par détendre le climat. Vous avez des adolescents qui sont cassés par l'école. Oui. Donc cette année de remise à niveau, c'est par définition entre guillemets une année où on a le temps de perdre son temps, d'une certaine manière.
Oui, il faut retrouver le goût de quelque chose, d'apprendre, de l'intérêt quelque part.
Comment vous vous y prenez, vous ?
J'essaie de les faire rire, ça ne marche pas toujours. Non, je crois au pouvoir des histoires, tout le monde s'intéresse aux histoires.
Non, mais vous dites, je ne dis surtout pas que j'enseigne le français.
Non, parce que c'est très scolaire, le français, tout de suite.
Vous dites quoi ?
Atelier de lecture-écriture. Et les adolescents adorent écrire, en réalité, plus que de lire.
Ah bon ?
Oui, ils écrivent souvent très très bien.
Mais y compris des adolescents à qui on a dit « tu es mauvais en français,
oui,
tu fais des fautes d'orthographe ».
C'est pas pour ça qu'ils sont beaux en orthographe.
Ah, oui.
Mais ils écrivent des choses époustouflantes, très 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 fort, vraiment. C'est incroyable.
À quoi vous pensez en particulier ?
Non mais des histoires qui leur est arrivées, c'est souvent autobiographique quand même. Il y a un exercice que j'aime bien donner qui est « hier, aujourd'hui, demain ».
Aujourd'hui, c'est demain.
Hier, aujourd'hui, demain. Ce qu'on veut. Ça marche magnifiquement.
Alors c'est sans doute une façon de réveiller l'intérêt par rapport à soi. On le voit dans les ateliers slam, hein, ce que vous expliquez. Oui. On le voit de manière spectaculaire, avec des personnes qui semblent de mauvais élèves, mais qui sont tout à fait capables de réalisation poétique. Mais ce qui est quand même important aussi, c'est de soutenir ceux qui sont dans des fausses pistes. Ils voudraient que ça marche, et puis ça ne va pas, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne retiennent pas. Et là, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, un cerveau humain. Comment un enfant qui dit « je ne comprends rien à mes maths » n'est pas un enfant qui ne comprend rien. C'est un enfant qui croit qu'il ne comprend rien.
Mais c'est la même chose avec la littérature. Ils peuvent dire « je n'aime pas lire », alors qu'en fait, ils n'ont même pas
je n'aime pas lire, ce qu'on m'a imposé,
mais c'est important de bien comprendre que les connaissances, ça se range. Et que apprendre, c'est connaître, analyser, comprendre un phénomène avant de produire une synthèse pour éventuellement produire une innovation. Et on peut le faire à partir d'un Bob l'éponge si on a un enfant de 6 ans, à partir d'un épisode de South Park s'il est plus âgé. On va regarder avec toi et tu vas simplement essayer de me montrer ce que tu en connais, ce que tu comprends et ce que tu es capable d'analyser. À partir de là, ben, fais-moi un résumé de l'épisode. Et à partir de là, essaye de créer le Nec plus Ultra. Tu vas me faire ton propre Bob l'éponge. C'est un enfant qui a compris, et c'est toute la différence d'ailleurs, entre ce qu'on appelle communément un homme intelligent et ce qu'on appelle beaucoup plus communément encore un con. Un con, c'est quelqu'un qui prétend synthétiser quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas pris le temps d'analyser et de comprendre. Et un gros con, c'est quelqu'un qui prétend faire une innovation alors qu'il n'a pas pris le temps de comprendre, d'analyser et de connaître suffisamment pour synthétiser. Et vous avez énormément de gens qui le font, hein, qui vous disent « j'ai découvert quelque chose de nouveau, tout le monde l'avait découvert avant lui ». Apprendre ça à son enfant, c'est lui apprendre à mettre en place des démarches avec une obligation qu'on doit se donner en tant que parent, c'est de bien ranger les compétences. Il y a ce que tu ne comprends pas, ça on va te le réexpliquer. Il y a ce que tu penses comprendre, mais que tu n'as pas encore installé, des connaissances en voie d'acquisition. Et là, les parents font souvent une très grosse erreur de dire « mais mon enfant, il comprend, mais il fait des fautes de distraction ». Une faute de distraction n'existe pas.
Ah
c'est
bon
juste une compétence qui...
Les fautes d'orthographe, par exemple.
Alors, si c'est une faute de distraction, c'est juste une compétence qui n'a pas été entraînée suffisamment et qui, donc, nécessite de l'énergie cognitive. Et donc, là, on va donner des exercices. Et il y a ce que tu connais, et ça, on abandonne. Si vous avez cette armoire avec ces trois penderies, vous allez éviter de revoir en permanence le même, hein, ce qu'on fait généralement quand on revoit ce qu'on connaît de manière multiple. Imaginez qu'on va pouvoir bâtir sur des connaissances qui ne sont pas encore installées. Ça, c'est très dangereux. Et ne pas donner tout son énergie en termes d'explication pour comprendre sur base de ce que tu maîtrises déjà. Et là, les parents ne sont pas toujours les mieux placés pour expliquer. Il y a parfois un cousin, un copain qui, parce qu'il est plus proche des mécanismes cérébraux qui lui ont permis de comprendre, est mieux à même d'expliquer.
Et puis, on peut passer par le ludique.
Bien sûr.
Qui est quand même beaucoup plus facile.
Tout à fait.
Parce que déjà, ça dédramatise
la tension. C'est pour ça que je parle de Bob l'éponge. Hein,
oui,
et de
c'est
South Park,
hein. Exactement. Et l'imaginaire.
Tout à fait.
Nathalie David Veil, le fait que vous-même, vous ayez été en difficulté scolaire, est-ce que vous êtes une autre pédagogue ? En général, les enseignants sont souvent d'anciens bons élèves qui rentraient bien dans le moule, qui appliquaient bien les consignes. C'est pas ce que vous avez été.
Non, justement, ça, je crois que ça me permet effectivement de comprendre la mécanique et surtout l'humiliation par laquelle, la honte par laquelle les élèves passent.
Vous pourriez la décrire, vous vous en souvenez encore de cette humiliation-là ?
Vous avez lu mon livre? Il y a plein d'exemples.
Oui.
Non, mais j'ai un exemple idiot que je remets d'ailleurs dans mon livre, mais qui était vrai.
Votre livre est un roman, mais vous, la façon dont vous l'avez vécu.
Par exemple, je suis petite aujourd'hui, mais quand j'étais petite, j'étais encore plus petite. Vraiment la plus petite de la classe, et il y a une maîtresse qui m'avait apporté un grand bottin pour que je puisse m'asseoir dessus, parce que je ne voyais pas le tableau, qui partait d'un très bon sentiment, mais l'humiliation par rapport à toute la classe, d'être stigmatisée comme la plus petite, et de le montrer...
Il aurait suffi qu'elle vous place au premier rang.
Oui.
Tout simplement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, échec scolaire, difficulté d'apprentissage. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Gérard Albin, vous nous appelez de Antananarivo à Madagascar. Soyez le bienvenu, Gérard Albin.
Bonjour.
Gérard Albin, vous êtes loin de votre période scolaire, mais vous avez une interrogation, vous avez envie de vous retourner sur votre parcours. Expliquez-nous.
Alors, j'ai 72 ans, j'habite ici à Madagascar, et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai été le cancre fini.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? J'en sais rien du tout. Et là, je suis devenu un excellent élève, brillant, 16 ans à l'université.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Point d'interrogation.
C'est d'une classe à l'autre? Vous avez le souvenir de vous, cancre, dans une certaine classe, et l'année d'après, premier de la classe? Comment?
Non, plein milieu de... Non, pas tout à fait.
Ah, plein milieu de l'année.
Premier trimestre. Ouais, comme ça.
À l'école primaire?
Oui, c'était en fin d'école primaire avant de rentrer au collège.
D'accord. Il n'y avait pas un examen en vue par hasard pour l'entrée au collège?
Non.
Vous n'étiez pas dans un système en Afrique subsaharienne?
Non, non.
Il y avait pas...
J'étais en France.
C'est ça. Et vous n'avez pas changé
France,
d'enseignant ou d'enseignante non plus?
Pas du tout.
Ou alors peut-être vous êtes tombé amoureux de votre maîtresse en dernière année d'école primaire, non? Je ne sais pas.
Ça, c'est après.
Alors, donc vous voudriez une petite psychanalyse rapide pour retourner sur votre passé avec Bruno Imbeck.
Alors, très rapidement, je pense, et ça a d'ailleurs été évoqué dans le témoignage sur l'humiliation à l'école. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'impression qu'on ne comprend pas, on induit des cercles vicieux de mésestime de soi. C'est-à-dire qu'on n'ose plus apprendre, puisqu'on se dit, je suis mauvais, donc j'ose pas. Et donc, on n'alimente pas l'estime qu'on a de soi-même. Hein, et sans doute que notre auditeur ici a inversé cette estime de lui-même. C'est-à-dire qu'il a eu des cercles, lui, vertueux d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il s'est dit à un moment donné, tiens, je comprends, donc je peux oser. Et donc, il va oser de plus en plus et alimenter l'estime qu'il a de lui-même. Et en cas d'échec, il va pouvoir relativiser. C'est ça le principe de l'élève. Vous savez, on met beaucoup en avant les systèmes danois, norvégiens, les systèmes du Nord, comme étant les plus positifs. Il faut savoir qu'ils ne sont pas plus positifs sur le plan des mécanismes didactiques. Par contre, il y a un élément qui fonctionne beaucoup mieux dans ces pays-là que dans nos pays à nous, c'est le fait que 8 petits Danois sur 10, quand ils lèvent le doigt, ont le sentiment de faire un acte positif. 8 petits Belges sur 10.
Parce qu'on participe, c'est ça.
Parce qu'on participe et que je pose une question. Ça veut dire que je suis en train de construire mon savoir, et pour construire mon savoir, j'ai besoin de poser des questions. Et pour poser des questions, il faut une estime de soi très stable. C'est-à-dire se dire, je ne suis pas en train de montrer une faiblesse en posant une question. 8 enfants belges sur 10, quand ils lèvent leurs doigts, ont l'impression de se mettre en situation de faiblesse. Et donc, vous avez ce mécanisme-là qui fait, par exemple, aussi, et ça, c'est aussi quelque chose que, voyageant beaucoup en Afrique, je peux me rendre compte de ce qu'on peut reprendre de systèmes éducatifs qui sont restés ceux-là. Vous savez, l'humiliation scolaire, elle est surtout vécue quand vous êtes interrogé, que vous ne savez pas répondre à une question. Beaucoup d'élèves, d'anciens élèves ou d'anciens cancres me le disent. Moi, quand j'ai été appelé au tableau, qu'on me pose une question que je ne sais pas répondre et qu'on finit même par m'oublier, mais qu'on me laisse face au tableau, c'est terriblement difficile à vivre. Quand je vais en Afrique subsaharienne notamment, j'entends beaucoup de questionnements collectifs. Et on est en train de remettre ça au goût du jour dans nos écoles belges ou françaises.
Qu'est-ce que vous appelez des questionnements collectifs?
Une question collective, c'est-à-dire l'enseignant pose une question et toute la classe répond. On chante une chanson tous ensemble. On est dans cette pression qui est moindre sur les individus qui sont condamnés à ne pas poser de questions et à donner des réponses très rapidement.
Une classe en Afrique où il y a une bonne ambiance, c'est si on entend ce bruit-là, hein, ah, dans les classes en Afrique. Ça veut dire que tout le monde a envie de participer.
Voilà, alors, si j'étais au Maroc récemment, c'était extraordinaire. Je voyais, chaque fois que je posais une question, puisqu'on est en train de travailler sur des fascicules de simulation de l'apprentissage de l'oral, on posait des questions, on avait des milliers de doigts qui, en claquant et en bougeant pour attirer l'attention. Je veux répondre, je veux répondre. J'étais hier à Paris dans une autre école. Les doigts s'élèvent vraiment très, très lentement, avec beaucoup de crainte, parce qu'on a peur de donner des mauvaises réponses, parce qu'on a peur d'être interrogé. C'est toute cette dynamique.
Oui, comme s'il fallait savoir avant d'avoir appris.
Exactement.
C'est ça le problème.
Et comme si le savoir, c'était la connaissance immédiate. Le savoir, c'est une construction, et on accompagne l'enfant dans cette construction en l'encourageant à poser énormément de questions et en lui permettant de se tromper très souvent, tout en donnant du sens à ses erreurs. C'est ça un enfant qui apprend. C'est un enfant, quand un enfant donne une mauvaise réponse et qu'on lui dit « c'est mauvais, c'est faux », eh bien, c'est là qu'on doit travailler. Explique-moi comment tu en es arrivé là. Si tu comprends ton erreur, tu comprendras comment on avance. C'est pour ça que la phrase de Beckett, trompe-toi, continue à te tromper, mais trompe-toi mieux.
Je vous lis une dernière question, si on peut me la faire apparaître sur l'écran, parce qu'on n'arrive pas à joindre l'auditrice. Voilà, Tipe qui est à Kinshasa en RDC, 3 enfants. Ma fille de 11 ans en 6e a des difficultés en maths depuis l'année dernière. Elle regarde beaucoup la télé, le téléphone. Comment l'accompagner? Je ne comprends pas.
Alors, comment l'accompagner? Elle regarde beaucoup la télé, par exemple. Utiliser ce qu'elle est en train de regarder. C'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser tous les médias que l'enfant met en jeu. Vous aviez parlé tout à l'heure des jeux vidéo. Beaucoup de parents me disent « il ne fait rien que jouer à ces vidéos, à ces jeux vidéo ». Mais ce n'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il joue à des jeux vidéo. Vous savez, un jeu comme Call of Duty, par exemple, va stimuler votre intelligence procédurale, analytique et stratégique. Ce sont les trois types d'intelligence.
Donc, intéressez-vous à ce que font vos enfants et pourquoi ils le font.
Voilà. Pensez pas que c'est un acte intellectuel vide. Il est en train d'utiliser son cerveau pour le faire. Les adolescents qui regardent des séries, par exemple, vous êtes professeur.
Néanmoins, il y a contrôle de maths, il y a une leçon à apprendre, on fait quoi?
Alors, on fait en sorte que tu te donnes les moyens de réussir si tu es toujours dans l'orientation que tu souhaites. Moi, je vois beaucoup, et une auditrice le disait tout à l'heure, il est devenu violent par rapport à l'école, parce que se mettre en crise ou mettre l'école en crise, c'était la seule façon de faire comprendre à l'école qu'il n'était peut-être pas à sa place dans cette orientation-là. Donc, bien écouter s'il se sent dans l'orientation qui est celle qu'il a choisie lui-même. Pour le reste, l'amener à gérer, par exemple, s'il y a des devoirs à faire, faire en sorte de réussir. Peut-être pas en m'utilisant pour t'accompagner parce que je vais m'énerver, mais en utilisant quelqu'un d'autre. Ouais. Et utiliser tout ce qu'il fait, tout ce qu'il utilise comme média d'apprentissage pour en faire des espaces de dialogue. Les adolescents qui regardent des séries, ce sont des adolescents qui sont capables, par exemple, si vous prenez une série comme Games of Thrones, d'analyser 6 schémas narratifs simultané. C'est pas rien. Hein. Et c'est une œuvre littéraire de grande qualité.
Ça donne des choses en atelier d'écriture, d'ailleurs, pour vous.
Ça donne énormément de choses.
Nathalie David Veilleux.
Absolument.
On entendait cet auditeur tout à l'heure qui nous disait « Je ne sais pas d'où est venu mon déclic, mais j'ai eu un déclic, je suis passée de mauvaise élève à très bonne élève. » Mais vous, alors, comment... quel a été votre déclic pour qu'aujourd'hui vous deveniez une accompagnatrice d'adolescents en décrochage scolaire?
C'était la perspective de rater le brevet en 3e déjà. Je me suis dit « Il faut que je me réveille, ça suffit ». Et puis, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup lu, ce qui ne sert à rien quand on est petit. On me reprochait d'avoir beaucoup trop d'imagination, ce qui ne sert à rien à l'école. Mais tout d'un coup, j'étais passée dans la section littéraire. Ça devient utile. Ça devient utile d'avoir lu, ça devient utile d'avoir de l'imagination et dans la vie après aussi. Ce qui est stupéfiant parce que je ne pouvais pas le savoir avant.
Et de valoriser l'écriture des autres,
comme vous disiez, une fois qu'on commence à avoir une bonne note, on se dit mais c'est possible. Et du coup, le cerveau s'ouvre.
Et de réconcilier.
Il n'y a
donc
plus cette fermeture absolue.
Et de réconcilier des adolescents avec l'école. Merci en tout cas à tous les deux pour cette émission passionnante. Bruno Humbeck, psychopédagogue, aider son enfant à bien vivre à l'école, aux éditions Le Duc. Et merci à vous Nathalie David Veil. Bon à rien, c'est un roman, beaucoup se reconnaîtront. C'est publié chez Robert Laffont. Demain, la lutte contre le réchauffement climatique va-t-il créer de nouvelles révoltes sociales? À demain.